Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Nous accueillons aujourd'hui Anaïs qui est la coordinatrice de l'association Montagne et Sciences. Donc bonjour Anaïs.
Bonjour.
Cette association qui organise la 11e édition de son festival de films le samedi 9 novembre au Palais des Sports de Grenoble. Tout d'abord, Anaïs, est-ce que tu peux un peu nous présenter cette association et comment elle est née ?
Bien sûr. Alors l'association Montagne et Sciences, elle est née... En fait, c'est le festival qui est né en premier. C'est assez drôle. Les rencontres Montagne et Sciences sont nées en 2014. C'est même une idée, je pense, qui a germé dans la tête de deux chercheurs et chercheuses grenoblois, grenobloises en 2012 ou 2013. Donc Éric Larose et Maureen Montagnard-Régnier. Sont chacun géophysiciens et glaciologues et qui ont eu l'idée en fait d'apporter un aspect de culture scientifique aux rencontres Ciné-Montagne, qui est un festival bien établi à Grenoble et voilà, qui propose des films pendant une semaine en soirée sur tout ce qu'on peut vivre en montagne avec pas mal d'exploits et d'aventures. Et en fait, ces chercheurs et chercheuses se sont dit, nous aussi, on vit en tant que chercheurs des aventures pour mener nos recherches dans les massifs, que ce soit autour de Grenoble ou bien plus loin. Et on aimerait faire connaître ça au grand public, en fait. Donc, donner un aspect culture scientifique à cet événement-là. Donc, il y a eu une première édition des Rencontres Montagne et Sciences qui ont eu lieu en 2014, portée vraiment par ces deux chercheurs-là, plein de bonne volonté. Et puis, le public était présent au rendez-vous. Et donc, du coup, à partir de 2015, il y a une association qui s'est créée, qui rassemble à la fois des scientifiques, mais également des réalisateurs. Et des personnes plus comme moi qui travaillent dans la communication scientifique. Donc voilà, toute une association qui rassemble plein de professions différentes pour porter cet événement qui s'est développé petit à petit. Il est né à Grenoble et puis maintenant il est dans une dizaine de villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hautes-Alpes et en Suisse parfois. Voilà.
C'est super. Et c'est dans quelle ville exactement il est autrement ?
Donc, on est à Grenoble. La première date de la tournée, elle a lieu à Grenoble, au Palais des Sports. Et après, on part jusqu'en Auvergne, à Clermont-Ferrand, mais également dans les massifs alentours. Donc, on va, pas cette année, mais régulièrement, on va au Bourdoisan. On peut aller également à Modane, en Savoie. On va à Valence, à Lyon, à Chambéry, à Tignes. Cette année, on devrait aussi avoir une date à Chamonix. Je dois en oublier. Donc, parfois, on va en Suisse, au Châble. Et l'Argentière, l'ABC pour les Hautes-Alpes. Voilà.
Oui, en voyant tous ces lieux, on voit que vous avez pour objectif de rendre la montagne, mais aussi les sciences accessibles à tous. Et pour cela, vous organisez pas seulement un festival de films, mais aussi des randonnées scientifiques avec votre association.
Oui.
C'est ça. Et quelles sont les thématiques de ces randonnées ?
Alors, les randonnées, en fait, les thématiques, c'est assez varié, un peu comme nos films qu'on projette. Et l'idée, c'était vraiment de... maintenant qu'il y a le public qui aime voir les films et donc suivre à travers grand écran un scientifique en montagne, faire ses recherches, l'idée, c'était carrément d'aller sur les chemins, vraiment, avec un scientifique avec soi, qui accompagne un petit groupe. Et puis, bien sûr, pour la sécurité, il y a un accompagnateur en moyenne montagne qui est là également. Parfois, le scientifique a les deux métiers... Donc là, il est tout seul pour accompagner le groupe. Mais l'idée, c'est vraiment de transmettre des connaissances. Donc ça peut être la lecture de paysages, ça peut être de la glaciologie, ça peut être de la botanique. Il y en a beaucoup sur la faune sauvage qui marche très bien. Il y en a sur l'astronomie, la géologie, beaucoup aussi. Voilà, et ça peut être autour de Grenoble, donc Chartreuse, Belledonne, Oisans. Mais il y en a également en Auvergne, il y en a également en Haute-Savoie. Au plateau de Bure, on en a une également. Enfin voilà, c'est assez varié en termes de destination. Sur un jour ou deux jours, ça dépend.
Des randonnées très enrichissantes alors. Et les sciences, elles peuvent parfois être perçues comme difficiles. Donc, je voulais vous demander comment vous les rendez attractives et vous les vulgarisez entre guillemets.
Ben là, c'est tout l'objectif du festival en fait, c'est de passer par le cinéma pour rendre attractif les attractives les sciences. Donc on choisit avant tout des films parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils parlent et qu'ils transmettent des connaissances de façon simple. Donc déjà par le biais des images, des paysages, et puis les scientifiques qui sont dans les films, qui sont passionnés, ont travaillé bien sûr leur discours en réalisant le film. Donc ça donne quelque chose de très, très accessible. On essaye aussi de parler pas seulement des sciences dites naturelles, mais également des sciences humaines et sociales. Et vraiment, c'est ouvert au plus grand nombre. Et on a d'ailleurs une partie de notre programmation qui est dédiée au jeune public. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit facile d'accès. Et les films, ils sont également complétés par des interventions sur scène. À l'issue de chaque documentaire, en fait, dans notre festival, généralement, il y a 5 films par projection. Et à l'issue de chacun de ces 5 films, il y a un intervenant scientifique ou alors un réalisateur, parfois, qui vient sur scène répondre aux questions du public ou alors répondre aux questions de l'animateur pour parler de ses recherches, parler des données qui sont arrivées après la réalisation du film, par exemple, ou expliquer pourquoi ils sont allés dans tel massif, sur telle falaise, voilà.
Et oui, donc on voit bien que la montagne, c'est pas simplement des paysages, mais c'est bien plus que ça, parce qu'elle est vivante. Et donc, vous utilisez les activités de montagne pour faire des découvertes ou des études. C'est bien ce que montre votre festival. Et à quel public s'adresse ce festival ?
Alors, on organise toujours 2 projections dans chaque ville qu'on a citée au début de l'émission. On a une projection qui est dédiée aux jeunes publics. Donc, c'est généralement des enfants qui viennent avec leurs enseignants sur le cadre scolaire. Et donc là, c'est à partir des élèves du CE2, donc environ 7 ans, jusqu'à la terminale, voire le BTS. Donc, à Grenoble, ça aura lieu le vendredi 8 novembre après-midi. Et il y a déjà 3200 élèves qui sont inscrits pour cette projection-là. Et après, on organise une autre projection tout public. Donc, bien sûr, les familles sont les bienvenues avec des enfants. C'est pareil, je dirais à partir de 7 ans, on peut venir jusqu'à 99 ans, comme on dirait. Voilà. Pour toute personne curieuse de voir la montagne sous un autre jour, pas forcément des exploits sportifs, mais des aventures humaines et scientifiques en montagne. Et puis, bah, pour apprendre voilà, sur les sciences naturelles, l'histoire. Voilà, il y a tout un tas de sujets dont on va sûrement parler après.
Oui, tout à fait. Donc une grande diversité de publics. Et je pense que c'est aussi important de préciser qu'il y a des sous-titrages pour personnes malentendantes.
Oui, ça c'est très important. C'est la première fois qu'on met ça en place pour les projections tout public. On n'a pas pu encore le mettre en place pour les jeunes publics, mais pour la projection tout public du samedi 9 novembre, tous les films seront sous-titrés en français pour les personnes sourdes et malentendantes. Et un jour, peut-être qu'on ira plus loin avec les interviews sur scène aussi qui seront signées. Là, pour le moment, on a déjà tous les films sous-titrés en français. Voilà. Et donc, ils sont à la fois en français, le son, et puis il y aura les sous-titrages pour compléter.
C'est déjà très bien.
Voilà.
Oui. Et quels sont les tarifs de cet événement ?
Alors, notre événement, il a pour vocation à faire connaître les sciences au plus grand nombre. Donc, du coup, pour ce faire, on a mis en place une tarification solidaire pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc, les projections sont gratuites pour les scolaires. Elles sont gratuites pour les mineurs et les étudiants. Et elles sont à prix libre entre 5 et 15 euros pour les adultes. Voilà.
Et les interventions qui seront faites après les films, est-ce que vous pouvez déjà un peu nous dévoiler qui va intervenir ?
Alors oui, je peux vous en parler de certains. Donc sur le film, on aura un film le samedi après-midi sur les singes, sur des macaques au Japon. Donc le film s'appelle Saru, une histoire de transmission culturelle qui a été réalisée par Aurélien Prudor. Et en fait, là, on part dans les montagnes japonaises, se poser la question. Souvent, on dit que le propre de l'homme, c'est d'avoir une culture. Et en fin de compte, des primatologues se sont rendus compte, une équipe internationale, dont un primatologue français, se sont rendus compte que bien sûr que non, ce n'était pas le propre de l'homme. Et qu'en fait, on peut sûrement parler de culture aussi pour une espèce de macaque japonais qui s'appelle Saru. Où en fait, il y a vraiment une transmission des savoirs et des savoir-faire d'individu à individu dans leur communauté. On peut les voir aussi coopérer avec des chevreuils. On peut les voir jouer avec des pierres. Donc, est-ce un jeu, est-ce pour faire de la musique? On peut les voir à des moments vraiment avoir des actions comme s'ils étaient en train de cuisiner. Donc, tous ces gestes-là nous font penser qu'il y a vraiment une culture et il y a une transmission, du coup, de génération en génération. Et pour parler de ce film-là, il y aura une primatologue de Lyon qui s'appelle Éléonore Roland, qui sera là, par exemple.
Ça donne envie. Et merci beaucoup et on va faire une petite pause musicale.
Salut, c'est cool, deviens bonjour, tristesse. Oh, le monde est beau, ouais, celui-là, c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu caches sous tes côtes. Des fois, je fais de la merde, mais c'est jamais de ma faute. Car le problème sera toujours les autres. Je roule les R comme Jack. Les congés, je connais App. Les congés, l'éponge. On abrège tous nos projets. Mais j'ai promis à ma J de la faire voyager. Alors j'enchaîne scène sur scène et fume l'herbe qu'on m'a coupé sous le pied.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8. Nous sommes aujourd'hui avec Anaïs, qui est membre de l'association Montagne et Sciences, qui organise son festival de films le samedi 9 novembre au Palais des Sports de Grenoble. Et vous venez d'écouter la musique La glace de Bigaranx, qui parle de glace qui fond et qui disparaît. Donc il y a justement un film qui sera diffusé à ce festival à ce propos, donc ça s'appelle The Ice Builders, qui parle de glaciers artificiels. Alors, je voulais te demander, Anaïs, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de glacier artificiel? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, dans le film The Ice Builders, en effet, on voit un collectif d'habitants et d'ingénieurs qui se démènent vraiment pour fabriquer des glaciers artificiels, donc on appelle des stupas de glace. Donc on est en Himalaya, au Ladakh, et en fait les habitants là-bas souffrent vraiment du réchauffement climatique, c'est-à-dire que les glaciers sont en recul, il y a aussi moins de précipitations, donc moins de neige. C'est une région aussi où il y a très très peu de pluie, et il n'y a pas non plus de... de nappes phréatiques là-bas, ou quasiment pas. Donc il y a vraiment un accès à l'eau difficile. Et jusqu'à maintenant, ils comptaient sur la fonte de la neige. Et là, en fait, aujourd'hui, eh ben, avec le réchauffement climatique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils ont eu l'idée de créer des glaciers artificiels. Donc c'est un système assez ingénieux et hyper difficile à mettre en place parce qu'ils ont très peu de moyens et bien sûr ils sont dans le froid à des altitudes impressionnantes, etc. Et ils créent en fait des sortes de fontaines grâce à des tuyaux mis en place pour fabriquer vraiment des cônes de glace ou des glaciers artificiels qui leur permet d'avoir des réserves d'eau au moment où du coup l'eau n'est pas encore présente et ou alors elle ne va pas être assez présente. Voilà, pour à la fois pour la vie du quotidien et puis bien sûr pour l'agriculture. Voilà.
C'est assez impressionnant à voir. J'étais allée voir une photo sur internet parce que ça m'avait justement interloqué. Oui. Et je me suis demandé, je ne sais pas si c'est mentionné dans le film ou pas, mais est-ce que ça a un impact environnemental de fabriquer de tels glaciers aussi ?
Non. Non, je pense pas. Mais il faudrait aller voir le film pour en être sûre. Mais non, je dirais pas ça. Mais par contre, on voit vraiment comme c'est très touchant dans ce film. On voit en fait vraiment comme les populations sont touchées par nous, notre façon de vivre qui est vraiment au-delà des ressources, au-delà de ce que la planète peut vraiment supporter. Et ben eux, ils sont vraiment touchés par ça au quotidien, par le réchauffement climatique, notamment nous occidentaux. Créons par notre mode de vie complètement démesuré. Donc c'est assez touchant à la fin dans le film, on voit une personne qui en parle et qui nous demande vraiment, mais essayez de vivre dans une mesure plus raisonnable, parce qu'en fait sinon nous c'est juste la vie tout court qui devient impossible dans notre lieu de vie. Donc c'est hyper, hyper touchant, ouais.
Oui, c'est une manière alors très, très concrète de voir la lutte contre le changement climatique et les conséquences.
Ouais.
Et je voulais vous demander à quel point vous intégrez la sensibilisation au changement climatique dans votre programmation du festival.
Ben en fait, dès qu'on parle de science et de montagne, quasiment dans tous les films aujourd'hui, on pourrait mettre dans le résumé les mots dérèglement climatique ou réchauffement climatique. C'est pas dans notre ligne directrice, mais le fait est qu'énormément de recherches qui sont réalisées sur la montagne aujourd'hui vont étudier un des aspects du dérèglement climatique. Après, nous, on essaye aussi de réaliser un événement le plus vert possible pour rester en adéquation avec les propos des films et des scientifiques. Donc, ça va passer par une limitation des impressions papier pour faire la promotion de l'événement, sur des papiers recyclés, encre végétale, le catering du festival aussi, donc pour nourrir nos bénévoles et les intervenants sur scène, ça va être du bio et du local, enfin voilà, ce genre de choses. On privilégie énormément le covoiturage, les transports doux pour faire venir tout ce beau monde à ce festival.
Événement très vert alors. Et est-ce que tu peux nous citer certaines conséquences du changement climatique sur les territoires de montagne ?
Alors, les conséquences du réchauffement climatique sur les territoires de montagne, eh ben, on a notamment un film qui parle de ça, qui est une première diffusion qui s'appelle « Alaska, le sol se dérobe ». Qui est une production CNRS, un de nos partenaires. Clairement, on voit aujourd'hui que le pergélisol, donc cette glace qui sert de ciment entre les gros blocs de roches, est en train de fondre, puisque réchauffement climatique. Et donc, du coup, il y a à plein d'endroits, donc là c'est en Alaska, mais on a bien sûr des exemples autour de nous, et bien du coup on a tous ces morceaux de roches qui ne sont plus tenus par ce ciment de glace et qui se disloquent. Et donc voilà, ça crée beaucoup plus d'éboulements en montagne qu'auparavant. C'est un des exemples.
Oui, et c'est un exemple qu'on voit aussi sur le territoire local autour de Grenoble. Il y a eu beaucoup d'éboulements, je me souviens
énormément.
Plus exactement où, mais...
Énormément.
Mais oui. Et donc dans le cas de ces glaciers en Himalaya, l'être humain, il a pu être témoin de leur disparition. Mais dans certains cas, les scientifiques, ils cherchent aussi à reconstituer une histoire qu'ils n'ont pas encore connue. Et c'est le sujet du film « Les secrets du mont Olympe ». Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film ?
Oui, alors « Les secrets du mont Olympe », qui est un film, un des plus longs de notre programmation, c'est le plus long, qui fait 52 minutes, qui est une première diffusion donc aux Rencontres Montagne et Sciences. Il a été réalisé par Anne Viry-Babel. Et en fait, ce film, il essaye de croiser... attendez, je réfléchis comment je peux vous expliquer ça. En fait, c'est surtout que... On est donc au Mont Olympe, en Grèce. C'est vraiment le berceau de la mythologie grecque. Et les scientifiques essayent d'expliquer, avec vraiment une enquête scientifique, pourquoi il y a autant de mythes qui se sont créés là-bas, que l'on croit là-bas. Donc notamment, est-ce qu'il y avait des glaciers sur cette montagne qui brillait et qui du coup pouvait faire penser à des divinités ou autres. On peut voir aussi dans le film qu'il y a beaucoup d'événements très forts, comme des gros orages. On peut voir énormément d'étoiles dans le ciel, etc. Donc c'est vraiment un endroit propice à la fois à la mythologie et donc là dans le film que l'on veut expliquer par une enquête scientifique. Et donc tu parlais de glaciers, mais en effet là-bas il y a, je vais pas dévoiler tout le film, mais sur la fin du film on peut voir vraiment une étude au niveau de la glace que l'on peut retrouver encore un petit peu là-bas. Donc vraiment là c'est vraiment oui un film qui croise donc culture comme on parlait au début avec Saru, mythologie et puis culture scientifique quoi.
Oui, c'est ce que je voulais te demander, c'est comment ils vont lier la mythologie grecque et la science.
Ben, c'est tout le propos du film. Il faut vraiment aller le voir. Donc, on suit dans ce film Mike Stilas, qui est un géologue et qui sera là au Palais des Sports le 9 novembre, et ainsi que la réalisatrice Anne Viry-Babel. Donc, vous pourrez en savoir plus en venant voir les images et puis en écoutant après leurs propos sur scène.
Donc, il y a des observations très intéressantes à faire en montagne, évidemment, sur les phénomènes météorologiques ou naturels. Mais il y a aussi des observations à faire sur les espèces animales. Donc, tu as un peu pu nous dévoiler avant avec le film Saru, une histoire de transmission culturelle. Et est-ce qu'il existe donc un héritage culturel chez les animaux, comme on peut le voir chez les humains ?
Oui. Clairement, le film Saru, il relate vraiment, il parle vraiment de ça. Et c'est assez émouvant de voir ces animaux développer toute une culture et se la transmettre d'individu en individu. Et puis dans ce film, on suit en fait différentes communautés de macaques à différents endroits du Japon. Donc c'est pareil, on peut voir les spécificités suivant du coup les communautés, comme elles ne sont pas connectées. Ben, on peut voir du coup dans quel axe elles développent leur culture. Mais en parlant de faune, on a également un film qui sera projeté le vendredi. Donc pour le jeune public ou toute personne disponible le vendredi 8 après-midi, on a un film sur les pandarous aussi en Himalaya, qui pour le coup n'est pas lié à la question culturelle, mais qui est vraiment plutôt lié à ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le réchauffement climatique. C'est une espèce qui est fortement menacée. En Himalaya et à la fois c'est une espèce vraiment emblématique de ce lieu donc on voit à la fois une réalisatrice et une biologiste indienne qui vraiment se battent ensemble main dans la main et avec les populations locales pour préserver le pandarou et c'est assez chouette et on aura la chance pour le coup d'avoir la biologiste indienne sur place à Grenoble le 8 novembre.
Elle s'est déplacée pour l'événement.
Oui, tout à fait. Exceptionnellement, on fait venir quelqu'un de loin, mais je pense que ça va être vraiment très chouette de la rencontrer.
Ah bah oui, c'est sûr, ce sera très intéressant. Et c'est les mêmes films le vendredi après-midi et le samedi après-midi ?
Non, on a 5 films différents. On a 10 films en tout. 5 pour le vendredi et 5 pour le samedi après-midi. Donc oui, plein de découvertes. C'est très varié du coup pour ces deux projections.
Et pour en revenir un peu au film Saru, comment elle se manifeste, cette transmission culturelle chez les animaux ?
Alors là, on voit beaucoup dans le film, en fait, des individus qui vont commencer à jouer avec les pierres. Et donc, du coup, par l'observation, les individus autour du premier vont reproduire petit à petit ces gestes-là. Voilà, c'est beaucoup par ça que ça passe.
Oui, donc c'est plus par mimétisme que par la parole, parce qu'ils
Exactement.
Sont pas dotés de parole.
Oui.
Parfait. Eh bien, je vous laisse sur la deuxième petite pause musicale.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while
sur les antennes de Radio Campus 90.8 avec Anaïs de l'association Montagne et Science. Vous venez d'écouter la chanson Beds Are Burning du groupe de rock australien Midnight Oil. Donc cette chanson qui est consacrée aux terres natales des aborigènes mais qui défend aussi la nature sauvage en dénonçant ainsi l'impact des activités humaines sur la planète. Et c'est aussi ce que nous démontre le festival de films Montagne et Science. Donc qui est le samedi 9 novembre au Palais des Sports de Grenoble, l'après-midi, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
De quelle heure à quelle heure ?
On ouvre les portes à 13h30 et la projection aura lieu de 14h à 17h30.
Parfait. Et si vous venez, nos chers auditeurs, vous aurez l'honneur de pouvoir voter pour votre film préféré. Donc Anaïs, est-ce que tu peux nous dire comment ça va se dérouler ?
Oui, alors chaque année, on propose à chacune de nos projections, donc les scolaires pourront aussi le faire le vendredi 8 et le samedi 9. Du coup, le grand public est appelé à élire son film favori, donc à donner le grand prix du film d'aventure scientifique. Ça se passera en fait avec une application sur le téléphone, donc directement dans le Palais des Sports. Et comme ça, on a les résultats en temps réel pour faire une remise des prix à la fin de la projection. Et du coup, les deux lauréats, donc du prix jeunesse et du grand prix du film d'aventure scientifique, les réalisateurs recevront des lots fournis par nos partenaires techniques Lagoped, Katadyn et Nemo Equipment.
Très beau partenaire. Et le samedi matin, vous avez aussi une rencontre avec des professionnels ?
Oui, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé. Le samedi matin, de 10h à midi, on organise une rencontre entre professionnels, donc entre scientifiques, réalisateurs et journalistes. Donc on appelle une séance de pitch où les scientifiques sont amenés à pitcher en fait leur sujet de recherche, que ce soit en montagne ou pas. On est ouvert vraiment pour le coup à la science vraiment au sens très très large. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser les rencontres en fait pour qu'il y ait des projets de films ou de podcasts ou d'articles qui naissent grâce à ces rencontres, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des scientifiques qui ont vraiment dans les mains des super sujets de recherche, mais eux, ils sont la tête dans le guidon, ils ne se rendent pas forcément compte que c'est des super sujets pour les médias. Et à côté de ça, on a des réalisateurs ou des journalistes qui cherchent des sujets de reportage. Donc voilà, l'idée, c'est de les faire se rencontrer. Et on a déjà des projets de films qui sont nés grâce à cette séance de pitch. Donc les scientifiques et les réalisateurs qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus.
Oui, vous êtes les bienvenus. Si vous avez une envie de toute collaboration scientifique, ce sera samedi matin. Aussi au Palais...
Au Palais des Sports également. Oui, ouais, tout à fait.
Oui, merci beaucoup. Et pour finir, j'avais une petite question plus personnelle. Quel a été le film du festival qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Donc festival toute année confondue.
Ouais, alors du coup, je connais le festival depuis sa création. Je travaille pour lui depuis 2020, mais j'avais pu un peu aider depuis 2014. Et un des films qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Le Grand Marais, qui a été réalisé par Clara et Thibault Lacombe et qu'on a projeté en 2022, si je ne me trompe pas, et qui est un film très... très poétique, un peu comme un récit poétique, avec une bande-son incroyable et vraiment de très très belles images. Et ce film, en fait, il est tourné dans la réserve naturelle des Saisies Val d'Arly-Beaufortin, je crois que c'est ça son nom complet. Et on voit vraiment comment cohabitent en fait la faune sauvage, la tourbière et les sportifs ou les scientifiques qui sont là dans la réserve. Et c'est hyper beau à voir, on voit vraiment... plein d'animaux perchés qu'on ne verrait même pas si on ne regarde pas un peu de près les branches au-dessus de sa tête quand on fait du ski de fond. Mais il y a des super belles images. Et ce film-là, en plus d'être mon coup de cœur, on va le reprojeter. Donc il a eu le grand prix justement, dont on parlait tout à l'heure, le grand prix du film d'aventure scientifique il y a 2 ans, donc en 2022. Et cette année, on le repropose dans le cadre des rencontres Ciné-Montagne, le mercredi 6 novembre après-midi. Puisque du coup, on est deux événements partenaires et ils nous proposent du coup une carte blanche de proposer un film pour leur après-midi familial qui est sur entrée libre, je crois, le mercredi après-midi, pardon, au Palais des Sports.
Eh bien, on te remercie beaucoup, Anaïs, pour cette interview que tu nous as accordée. Et on se donne donc rendez-vous pour la 11e édition du Festival de films Montagne et Sciences, le samedi 9 novembre de 13h30 à 17h30 au Palais des Sports de Grenoble. Et c'était l'apérophonie. On remercie aujourd'hui Oscar qui était à la technique.
Merci à vous.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !